Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio aujourd'hui, trois personnes qui sont venues parler de la traditionnelle fête de la laine qui aura lieu à Cray, à la salle des moulinages et coloriages du 8 au 9 février. Une manifestation traditionnelle qui est organisée par la Toison d'Art. Alors, dans le studio, nous avons Margot Jobet-Duval, une éleveuse de brebis mérinos qui est installée à Glandage et qui s'est lancée aussi dans la valorisation de la laine. Bon, elle vous en parlera tout à l'heure. Il y a aussi Véronique Charles, artisane et animatrice de la laine au sein d'une association qui s'appelle les Agités du Local, qui est basée à Adi et qui fourmille deux projets. Elle nous en parlera effectivement plus tout à l'heure. Et nous avons aussi Vincent Ducomet, éleveur et transformateur de laine, qui fait aussi des pulls, qui est installé à Barnave. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Vincent, ça fait trois fois que tu viens, et c'est la troisième fois que tu viens et c'est toujours avec un grand plaisir que je te reçois pour parler de cette filière laine. Mmh. Déjà l'année dernière, tu disais qu'elle était en train de résurger.
Oui, c'est une manière de dire qu'en ce moment, il y a un peu de partout des gens qui ont, à différents niveaux, recommencent à avoir des activités avec la laine, soit directement en des transformateurs, des tisserands. Il y a une filature qui se remonte actuellement en Ariège. Il y a des petites choses comme ça. Et puis aussi des gens qui ont un niveau plus individuel et puis d'autres plus collectifs qui font des stages de formation, voilà, et y compris des éleveurs de brebis qui, lassés de balancer leur laine au fumier, décident de prendre les choses en main et de transformer eux-mêmes ou de faire transformer et en tout cas de vendre eux-mêmes le produit, quoi.
Mais ça reste épiphénoménal, non ? C'est quand même, comme tu as dit, des initiatives souvent privées avec des petits moyens.
Il y a un peu de tout, en fait. Il y a des initiatives privées. Il y a aussi des gens qui sont regroupés en associations. À la fête de la laine, il y a le centre de l'association APAM, par exemple, des éleveurs des Alpes-Maritimes, qui transforment de la laine mérinos, de la laine brigasque, enfin toutes sortes de laines, et qui sont une bonne dizaine quand même. Il y a aussi une association qui est déjà assez ancienne, qui s'appelle l'Atelier, qui regroupe tous les gens qui se passionnent et qui sont actifs dans le textile en Europe.
La Toison d'Art ?
La Toison d'Art, évidemment, oui. Je pense que l'association a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Hein, elle regroupe des artisans d'art qui travaillent des matières souvent assez précieuses, le mohair, l'alpaga, le cachemire, la soie, et puis également des producteurs qui soit transforment eux-mêmes, soit font transformer leurs matières.
Bien sûr, vous êtes déconvaincus puisque vous êtes tous dans cette filière, mais économiquement, est-ce que c'est jouable ? Est-ce que ça vaut le coup vraiment de réactiver une filière qui a disparu sans doute pour des raisons concrètes et matérielles ?
Il y a pas mal de matières qu'il va y avoir à la fête de la laine. Moi, je connais mieux la laine de brebis, mais il y a aussi du poil de chèvre, du poil de lapin, de machin, de trucs. De manière générale, la laine de brebis, c'est une des richesses que produit la brebis. Donc, ça paraît aberrant que cette laine soit jetée ou vendue à vil prix. Et une des complexités du problème, c'est justement la taille de l'industrie actuellement. Donc, on ne pourra pas remettre une filière laine de grande taille sur pied. Pour repartir, il faut repartir de tout petit. L'autre jour, je parlais avec un homme qui est dans l'Aveyron, qui fait des sacs en cuir de brebis de l'Aveyron. Le sac du berger, ça s'appelle. Et il m'expliquait que tout là-bas a disparu au point de vue maroquinerie, mégisserie, etc. Alors que c'était très florissant, hein. La filature également. Et il me disait, mais il faut repartir de zéro. Parce que si on repart avec l'espoir de reprendre les choses telles qu'elles étaient il y a 20 ans, on va se casser la gueule. On va reconstruire des énormes filatures où il n'y aura pas de laine parce qu'on n'est pas capable de vendre des grosses quantités pour l'instant. Mais on est capable de faire de la petite quantité et de réamorcer chez le consommateur un intérêt pour la matière.
C'est à cause des importations massives de laine de Nouvelle-Zélande qu'une partie de cette filière s'est fait plomber, si je ne m'abuse.
Je dirais que c'est plutôt le synthétique.
Ah, ouais. C'est le nylon.
La laine de Nouvelle-Zélande et d'Australie, c'est la seule qui arrive à survivre parce qu'elle est de très grande qualité et puis parce que aussi c'est des très gros élevages et qu'ils sont bien adaptés au gros marché international. Mais le problème, c'est qu'actuellement, les gens qui achètent des pulls, ils veulent un pull à 10 euros. Et puis, ils le jetteront. Et l'année prochaine, ils en achèteront un autre à 10 euros. Parce qu'on peut faire ça avec du synthétique, mais avec de la laine vierge, on ne peut pas faire ça, quoi.
Oui, parce qu'il faut beaucoup plus de travail pour en arriver à faire un pull en laine, je suppose.
Sans doute, ouais, sans doute. Et c'est une autre matière, quoi. Après, c'est une autre manière de consommer.
Alors, pour nous autres béotiens qui ne connaissons pas à ce point la filière de la laine, est-ce que vous pourriez, vous autant que vous êtes, nous faire un descriptif de tous les métiers qu'on peut trouver autour de cette filière laine renaissante ?
Il y a déjà l'éleveur qui élève la brebis. Et là, on arrive à la tonte.
Eh bien, après la tonte, il faut faire le tri. Parce que toutes les laines ne se valent pas. Et à l'intérieur d'une toison, toutes les parties de la toison ne se valent pas non plus. Et après le tri, le lavage.
Alors en France actuellement, il n'y a plus tellement de lieux où il y a quelques lieux de transmission pour apprendre à trier pour les éleveurs qui veulent du coup valoriser la laine de leurs brebis. C'est possible d'apprendre ça. Il y a encore quelques centres de formation en France qui le font. Et puis il y a quelques filatures qui lavent la laine encore, dont la filature Chantemerle à Longomaille où les éleveurs ou les artisans peuvent directement être accompagnés à laver leur laine. Même si on n'y connaît rien au départ, on peut être formé sur place. Et c'est une action qui s'appelle « Lavons la laine ensemble » et qui n'est pas monnayée. Ça ne passe pas par un système de consommation habituel où on apporte la laine, elle est lavée, on vient rechercher la laine. Là, on le fait ensemble et c'est la valeur du travail des uns et des autres qui fait qu'on peut repartir avec sa laine propre.
C'est compliqué de laver sa laine ?
Ce n'est pas compliqué du tout de laver sa laine. On est accompagné pour apprendre à trier, à laver. Ça demande un peu d'huile de coude, mais ça se fait dans la bonne humeur et dans le partage. Et c'est une filature qui tient encore debout et c'est vraiment dommage de la laisser tomber en ruine et de ne pas s'en servir. Tout fonctionne à la force hydraulique, donc il n'y a pas de consommation d'énergie. Et puis sur place, il y a quand même l'atelier donc, qui est... menée par Marie-Thérèse Chopin, où on peut être accompagné justement pour après intégrer un réseau et être mis en réseau avec les personnes qui vont transformer soit en vêtements, soit en accessoires, soit en matières consommables par les artisans ou les créateurs. Et c'est aussi toutes ces dimensions-là de se mettre en réseau et de partager et de pouvoir échanger avec les personnes les plus locales possibles.
Et si on en revient au métier alors, une fois qu'on a lavé et trié, que suit-il ensuite ?
Une fois qu'on a trié d'abord et lavé ensuite, eh ben après il y a un choix à faire, soit on carde, soit on peigne. Donc c'est technique, hein, c'est deux méthodes. Le cardage c'est un peu plus rustique et la laine peignée c'est Margot peut en parler puisqu'elle en a fait peigner, voilà, cette année. Elle a fait partie d'un groupe d'éleveurs, donc ça fait partie des initiatives qui émergent, des éleveurs qui se regroupent avec de la laine mérinos, parce qu'il faut une laine de haut de gamme pour valoriser le peignage, qui emmènent leur laine en Italie, puisqu'en France ça n'existe plus du tout, pour faire un fil très doux, très régulier, un fil haut de gamme, quoi. Hein ?
En fait, le peignage consiste à... paralyser complètement les différentes fibres qui composent la laine. Ça nécessite d'avoir des fibres assez longues qui font minimum 6 cm. Du coup, cette opération, elle élimine en fait tous les déchets végétaux, les fibres plus courtes. Et elle permet, voilà, comme disait Vincent, d'avoir un fil très fin, très soyeux, très régulier. À la différence du cardage qui peut s'adresser à des fibres plus courtes, où là, la parallélisation des fibres, elle est beaucoup moins exhaustive, donc on aura un fil qui sera forcément plus épais.
Plus rustique.
Plus rustique, du coup.
Petite question subsidiaire, comment au bout du compte on a un fil qui ne se casse pas ? Enfin, parce que si on parallélise toutes ces fibres, il ne faut pas mettre de colle pour que ça colle quand même. Comment ça se fait que ça tienne ?
C'est le retors. C'est le fait qu'on assemble, en fait, on va faire un fil de base qui sera relativement fin, qui aura une torsion. Donc c'est cette torsion qui donne une première solidité au fil. Et ensuite, on va assembler des fils unitaires ensemble en les retordant pour créer des fils de plus en plus épais éventuellement et qui du coup, en fait, par la complémentarité des deux torsions, sont solides.
Donc ça, c'est peut-être même l'étape qui suit le cardage ou le peignage, d'ailleurs. Peut-être, non ? Si je ne m'abuse.
Absolument. Et c'est bien.
Et comment s'appelle cette opération de torsion du fil ?
C'est ce qu'elle a dit, le retors.
Le retors.
Mmh. C'est un métier, il y a des gens qui font que ça.
Des retordeurs.
Ils retordent.
En fait, il y a après, quand on a de la laine peignée ou de la laine cardée, il y a deux étapes possibles. Il y a soit le feutre, qui est une action de transformer la laine en une sorte de tissage anarchique qui devient un tissu de laine, ou alors le filage. Et le filage, ça peut se faire soit mécaniquement, soit de façon artisanale, manuellement, au rouet ou au fuseau.
Donc une fois qu'on a fait le filage, soit de manière artisanale, soit de façon un petit peu industrielle, on arrive à des fils, et là, soit on tricote, soit qu'est-ce qu'on fait avec ces fils ?
On peut tisser, crocheter, tricoter avec un fil, et avec de la laine cardée, on peut feutrer.
Et on peut faire des matelas ou des coussins ou des, du rembourrage. Ça, on va utiliser des laines courtes, souvent pour ça, ou un peu grossières, des laines de moins bonne qualité, quoi.
Mais qui, par contre, ont une qualité de gonflant, qu'on trouve justement pas forcément chez les laines qui seront utilisées pour le fil, comme la laine mérinos. Elle a moins ce caractère gonflant, et à la différence d'une laine de morée rousse ou d'une laine de brebis lacone, qui voilà, une capacité à reprendre sa forme initiale, son volume initial, et c'est celle-ci qu'on va utiliser préférentiellement en matelasserie.
C'est effectivement toute une filière de métiers complémentaires, et comme tu le disais, ils ont tous intérêt à se mettre en réseau, si j'ai bien compris, pour recréer à partir de pas grand-chose cette filière.
Alors elle n'est pas totalement disparue, la filière. Il y a encore des acteurs traditionnels de l'industrie, de plus ou moins grande taille. Moi, je travaille avec des gens qui travaillent dans le Tarn. Donc c'est des gens qui ont réussi, je ne sais pas par quel miracle, à passer à travers toutes les fermetures d'usines. Il y en a quelques-uns en France encore qui... Alors eux, ils se resserrent les coudes pour travailler en réseau parce que ils ont besoin les uns des autres. Donc on peut faire appel encore à des gens comme ça. Alors pour la laine peignée, on ne peut plus le faire en France, mais pour toutes les autres opérations, on peut encore le faire en France. Dans le Tarn, dans l'Ariège, dans la Corrèze, dans le Creuse. Ouais.
Et Haute-Loire.
Les départements montagnards, quoi, souvent.
Souvent.
Alors, est-ce que ce sont des gens qu'on va retrouver justement à cette fête de la laine ? Ou alors, que va-t-on y trouver dans cette fête de la laine ?
On va y trouver ce qu'on disait. Par exemple, on va y trouver des gens qui viennent de l'Ariège, qui vont réouvrir une filature en Ariège, qui n'est pas vraiment fermée, mais c'est une transmission qui s'effectue. Il y aura même une conférence à ce sujet avec Simon Nadal, qui s'occupe de ça. Dans les transformateurs, il y aura aussi Stéphane Boileau qui va faire aussi une conférence et qui, lui, s'occupe pour l'isolation des maisons.
Je vois qu'il y a Longomaille, effectivement.
Voilà, Longomaille, ils ont la maîtrise de toute la filière, en fait. Depuis la tonte, même l'élevage, tout, quoi.
Voilà, puis au niveau national et européen aussi, il y a un gros travail de mise en réseau des différents partenaires, justement.
À côté de ça, il y a quelques producteurs indépendants, comme moi, qui faisons transformer notre laine et vendons nos produits. Et aussi beaucoup de... La majorité, on peut dire, c'est des tricoteurs...
Des créateurs.
Des créateurs, ouais. Mais c'est des créateurs qui... C'est pas le styliste qui va créer un modèle pour une grande marque. C'est des gens qui créent leur modèle et puis qui ensuite le fabriquent et le vendent.
Voilà, qui sont artisans créateurs. Et puis il y a aussi, en plus de toutes ces personnes, des gens qui sont là pour faire découvrir justement ces différents savoir-faire de manière artisanale. Donc il y a des animations. Il faut dire que cette fête, elle est entrée gratuite. Donc on peut y entrer pour juste voir des belles choses, participer à des ateliers, se renseigner sur la filière de la laine, comment ça fonctionne. Et la partie transmission, du coup, il y a plusieurs animations qui sont... données pour tout âge, les enfants, les adultes. Il y a une présentation des différents types de laine, il y a du cardage, du tissage, une technique d'impression végétale de teinture, du feutre. Il y a plein d'ouvrages aussi pour ceux qui sont intéressés. Ça peut être le moment de chercher des références.
Et toi, et ton association, les agités du local, sera présente ?
Non. Là, je serai présente avec une des personnes de l'association qui s'appelle Aurélie Labbé, qui est une tisserande aussi de la région. Et on va donner un atelier pendant les deux jours sur comment on tisse la laine en grosses mèches. Et donc, ça sera de la laine locale, des brebis que j'ai récupérées chez les éleveurs alentour. Il y a la fibre textile aussi qui sera présente à la fête de la laine à Cré et qui regroupe des professionnels et des amateurs dans toute la France. Et là, en particulier, ça sera une action qui s'appelle « Pédaler pour la paix ». Et donc, ce sont des fileuses, donc beaucoup d'amateurs, qui vendent des écheveaux de laine au profit d'une action solidaire qui change tous les ans. Et cette année a été choisie de soutenir un projet au Burkina Faso. Voilà, ça change tous les ans et c'est un projet textile dans un autre pays avec lequel on est en lien.
On ne va pas passer en revue tout le programme qui est très riche. Hein. Je peux vous dire que quand on regarde le programme, il y a au moins 50 propositions diverses et variées, plus les animations dont on en a parlé brièvement. Hein. Je vois qu'il y a des conférences. Pour les enfants, l'année dernière, il y avait quelque chose, je ne sais pas si c'est prévu, il y avait le fameux clown qui tourne autour du manège. Là.
Mm-hmm. Ah oui, il y a toujours des bêtes justement, parce qu'on a parlé beaucoup de la laine de brebis, mais ce ne sont pas les seules fibres qu'on peut utiliser en toison animale. Et donc, il y a des animaux représentatifs qui sont juste dans une petite cour qui est annexe à la salle.
Donc peut-être pourrions-nous, puisque nous n'allons pas passer en revue, inviter les gens soit à aller sur un site internet qui se trouve être www.latoisondart.net où je suppose que vous trouverez le programme complet avec des numéros de téléphone, etc. Je remettrai aussi sur la page internet de l'émission tout ce programme. Mais peut-être tu pourrais expliquer un peu, on a parlé de ton association qui avait beaucoup de projets présentement, localement. Est-ce que tu voudrais nous faire part de ce qu'il en est ?
Tout à fait. Alors, je fais partie d'une association qui se monte depuis un an d'artisans locaux. Notre souhait, c'est de représenter un pôle artisanal local pour pouvoir être identifiable facilement et avoir un petit peu toutes les matières de représenter. Donc, il y a le travail du bois, le travail du cuir, il y a le travail de la laine, il y a de la transformation de plantes. Il y a même, qui sont un petit peu plus connus en ce moment, c'est les machins-machines qui utilisent des imprimantes 3D. Et on va être basé dans la rue Émile-Laurent pour partager une boutique qui ne soit pas un dépôt-vente, parce que c'est la problématique de beaucoup de producteurs actuellement. Et quand on met des choses en boutique et qu'on ne tient pas la boutique, on a quand même jusqu'à 40% du chiffre d'affaires qui peuvent partir. Donc, sachant qu'être artisan, c'est déjà difficile financièrement. Là, notre souhait, c'était vraiment de nous grouper pour faire des échanges de savoir entre nous et aussi nous soutenir financièrement dans des activités professionnelles qui sont des passions, certes, mais ça peut être un peu fragile à certains moments. Donc, on se motive à plusieurs. Et en plus de la boutique partagée, on aura aussi un espace de transmission de tous ces savoir-faire pour pouvoir proposer aux enfants, aux adultes, en cours particulier, en atelier trimestriel ou juste des choses plus ponctuelles, toute la gamme de nos savoir-faire à nous tous. Donc on s'appelle Les Agités du Local et on sera un peu plus visible au mois d'avril. On va faire une fête de soutien. On n'a pas encore la date arrêtée pour l'instant. Et aussi une inauguration donc, qui sera soutenue par la mairie de Die dans cette rue.
Et tu pourras revenir spécifiquement pour ça à la radio, éventuellement.
D'accord, bah on viendra à plusieurs pour en parler plus longuement.
Alors, Véronique vient donc de présenter les projets de son association. Est-ce que, Margot, tu voudrais aussi parler un petit peu de tes projets ? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais même en formation pour réapprendre la partie tissage, si je ne m'abuse.
En fait, moi, j'ai un passé de chercheuse. Donc j'ai longtemps travaillé en Bolivie avec des sociétés paysannes indiennes dans les Andes, où la tradition textile est encore très forte. Et voilà, donc ce sont des sociétés qui ont gardé une composante pastorale très forte dans leurs activités, qui gèrent des cheptels multi-espèces, en fait, où il y a des camélidés, donc des lamas, des alpagas, et des troupeaux de brebis, donc ça c'est mélangé. Et donc avec un recours qui est exclusivement basé sur des ressources locales. Et les femmes, voilà, elles, toute la journée, elles mènent les brebis, et tout en menant les brebis, elles filent. Et en saison sèche, elle tisse. Pour moi, c'était, voilà, j'avais une approche de géographe sur ce travail, mais j'étais très touchée par la capacité de ces sociétés paysannes traditionnelles, en fait, à embrasser toute une gamme de savoir-faire et à valoriser les ressources du territoire, à créer les objets et les outils dont ils ont besoin, et à créer aussi une dimension de beauté qui est absolument fondamentale dans leur approche, quoi. Et donc, voilà, nous, quand on est revenu en France, il y avait, dans notre projet d'installation, il y avait un petit peu cette ambition, enfin, en tout cas, cette exigence de se placer dans cette idée d'installation paysanne, en fait, de travailler avec des ressources, d'essayer de construire quelque chose qui soit cohérent d'un point de vue technique, enfin, qui ait une cohérence d'ensemble de notre ferme. C'est pour ça qu'on essaye d'associer des plantes, des animaux, et que les richesses en fait, que fournissent les brebis, elles soient toutes présentes. Donc, le fumier pour les cultures, le lait pour nourrir des agneaux, qu'ensuite on ne va pas nourrir en bergerie avec des céréales, mais que nous, on va laisser grandir lentement à l'extérieur. Peut-être à terme le cuir. Et surtout, il y avait cette laine qu'on avait envie de valoriser, de lui accorder cette dimension. Donc moi, voilà, je passais en mémoire ou en hommage aux paysannes avec qui j'ai travaillé, que j'ai eu envie d'apprendre ce savoir-faire qui est lié au tissage.
Et ces savoir-faire, tu les as appris là-bas ou est-ce que ici, tu as pu bénéficier de gens pour te transmettre ces informations, ce savoir? Parce que c'est une des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a encore ici même les compétences pour toute cette filière laine? Tout à l'heure, Vincent, tu as dit que pour peigner, il n'y avait plus en France, si j'ai bien compris. Hein.
Là, je parlais des compétences industrielles, en fait, hein, pour peigner. Sinon, on peut très bien peigner de la laine à la main. Hein. Ça, c'est toujours fait, donc ça, c'est pas un problème.
Oui, mais y a-t-il encore des peigneurs à la main de nos jours?
Oui, oui, ça ouais, existe encore, doute. En fait. Alors, quand tu dis dans le coin, ça va être plus ou moins local. C'est-à-dire que justement, nous, dans notre association, on est deux à pouvoir transmettre ces savoir-faire. Margot, elle s'est tissée aussi. En fait, c'est que le réseau, il n'est pas forcément très apparent. Et du coup, en se remettant en réseau et en se soutenant chacun dans nos activités, on va pouvoir informer aussi les gens que ça intéresse. Parce qu'évidemment, tant que ce n'est pas apparent, personne ne peut être intéressé ou savoir qu'il y a des personnes référentes qui vont pouvoir transmettre ces savoir-faire ou même mettre de l'outillage, du matériel en commun pour pouvoir travailler la laine ou d'autres types de textiles en local.
Donc Margot, alors toi, ces savoirs, tu les as trouvés là-bas ou est-ce que tu les as trouvés ici?
Je les ai rencontrés là-bas, mais c'est ici que j'ai pu apprendre. En fait, parce qu'ici aussi, il y a cette volonté, comme disait Véronique, de transmission. Il y a tout un travail pédagogique qui a été fait et qui continue à se faire autour de la laine en France. Et c'est justement ça qui je pense, est le plus précieux du renouveau de la filière. Ça ne se joue pas en termes de volume ni de masse financière qui sont mobilisées, mais c'est en termes d'énergie humaine qui sont mises dedans. Et je crois que c'est là qu'il y a le point crucial de cette filière laine, enfin, ou de cette filière textile. Parce que justement, c'est une filière textile qui ne s'appuie pas sur l'exploitation de l'homme, à la différence de toute la filière textile synthétique. Je pense que c'est un point sur lequel c'est important d'insister.
Ceci dit, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que dans ton exploitation, tu as fait un compte d'exploitation prévisionnel? Est-ce que tu peux vivre de cette cohérence magnifique, locale, avec des savoir-faire? Est-ce que tu vas t'en tirer ou est-ce que tu vas manger de la vache enragée pendant des années?
Ah, c'est une bonne question. Non, actuellement, même en travaillant la laine, un éleveur en France, il va difficilement s'en sortir sans le cortège des primes et des aides publiques qui existent. Par contre, en faisant le travail de chercher à valoriser notre laine, on peut parfois peut-être apporter une petite plus-value économique à notre travail, mais ce ne sera pas ça qui va changer le compte d'exploitation drastiquement. Mais je pense qu'il y a c'est une autre dimension qu'on met en avant aussi. C'est le fait qu'il y a des produits qui n'ont pas à être jetés et il y a un système qui n'a pas à se perpétuer. Voilà, la filière textile telle qu'elle est organisée au niveau mondial, avec des usines au Bangladesh où les gens meurent de travailler et d'un travail non rémunéré, ça n'a pas existé. En fait, nous, à petite échelle, avec notre passion, on travaille aussi pour ça, quoi.
Et tu parles d'exploitation humaine, mais il y a aussi toutes les ressources de la planète qui partent pour laver le textile et puis le coût carbone de l'opération pour que ça aille après dans les magasins, l'empaquetage, l'étiquetage, enfin, On porte du plastique sur la peau à longueur d'année. Et donc, nous, on travaille dans ce sens-là, en sens inverse un peu. Mais dans le Diwa, les gens sont déjà quand même assez sensibilisés sur les énergies renouvelables, sur la consommation alimentaire et la production alimentaire. Et du coup, le réseau textile, pour moi, c'est vraiment en cohérence. Il faut absolument que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. C'est dans la même mouvance.
Vincent, tu disais tout à l'heure que l'ennemi, c'était le synthétique.
Ouais.
Tu penses que c'est possible d'envisager qu'il y ait une véritable prise de conscience un jour, qu'il est plus humain et respectueux de l'environnement, de s'habiller de pied en cap avec de la laine et du tricot?
Non, mais je suis bien incapable de répondre à la question. Non, mais au moins en partie, oui, c'est certain, quoi. Enfin, actuellement, ça paraît complètement incongru d'acheter un pull en laine pour la plupart des gens, quoi. Parce que on va dans une boutique, on regarde l'étiquette, on voit 100€, 150€. La plupart des gens n'ont pas autant d'argent à mettre dans un pull au vert. C'est clair. Et pourtant, après, si on réfléchit tranquillement, ces mêmes personnes, ils vont acheter des pulls en synthétique 15€. Ils vont les porter à peu près 10 fois moins longtemps qu'un pull en laine. Donc finalement, au point de vue monétaire, je veux dire, il n'y a pas de gros soucis. Et pendant le temps que le pull en laine est porté, on a le plaisir de vivre avec une fibre vivante au lieu d'être avec un sac en plastique sur la peau, quoi. Donc tout ça, c'est pas si fumeux que ça en a l'air, quoi. Et donc, alors, voilà, je sais pas si on peut remplacer totalement le synthétique, mais on, par exemple, actuellement, dans les fibres high-tech, pour l'alpinisme, etc., il y a tout d'un coup un comeback du mérinos pour les sous-vêtements. Il y a 10 ou 20 ans, on faisait rire n'importe quel vendeur de sous-vêtements, pour le sport en lui parlant de laine. Et pourtant, maintenant, on y revient, quoi. Donc c'est faisable, je pense.
Est-ce que justement cette filière laine, un peu traditionnelle, locale, etc., s'est organisée pour faire la promotion? Est-ce que la Toison d'Art et d'autres acteurs font partie d'un réseau plus vaste qui essaye de faire du lobbying? C'est un terme, c'est presque un gros mot, je sais bien, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut utiliser les moyens de l'adversaire pour le contrer.
C'est l'atelier.
Ben oui.
Voilà.
L'atelier, c'est une association qui sera présente à la fête de la laine et que Margot connaît bien.
L'atelier, donc, c'est une association qui a quasiment 30 ans d'existence. Tu me corriges, Vincent ?
Ouais, allez.
Qui est née justement de ce constat d'une filière qui périclitait, avec en même temps des énergies pour maintenir des choses et continuer à créer et inventer des choses. Donc l'atelier Laine d'Europe fait le lien entre tous les acteurs de la filière qui s'engagent quand même sur une charte commune, donc de respect à tous les échelons, enfin, tous les échelons où chacun travaille, de respect des hommes. Voilà, on s'autorise pas à sous-payer la main-d'œuvre quand on a affaire à du travail salarié. De respect de l'environnement aussi, de transparence. Voilà, on s'autorise pas à aller acheter en Chine à bas prix de la laine pour ensuite s'afficher avec le logo de l'atelier. Donc l'atelier organise des stages régulièrement d'initiation au travail de la laine, des rencontres entre les différents acteurs, des formations justement au tri de la laine, aux différentes opérations. L'atelier a aussi beaucoup travaillé avec l'association, enfin, est à l'origine de l'association des tondeurs de moutons et travaille avec eux pour que les tondeurs, qui sont un des échelons vraiment importants, cruciaux de la filière, non seulement ils sachent le trésor qu'ils ont entre les mains quand ils tondent une brebis, mais du coup, ils le fassent aussi en conscience, de façon à valoriser au mieux la laine derrière.
Ils sont même capables d'en faire prendre conscience l'éleveur, qui finit des fois par avoir l'impression que ça vaut rien.
Je te prie de m'excuser de t'interrompre, mais est-ce que les éleveurs, de nos jours, prennent conscience de ce fait qu'ils pourraient essayer de valoriser leur laine, ou est-ce que c'est très épiphénoménal?
Eh ben, j'en connais plusieurs qui ne le faisaient pas et qui le font maintenant, donc épiphénomène sûrement. Mais disons, il y en a un petit peu de temps en temps et de plus en plus.
C'est douloureux pour un éleveur, en fait, toujours de jeter sa laine. Enfin, il y a une conscience profonde de la valeur du produit. Et en fait, il y a plus un sentiment d'impuissance face à une filière qui leur a échappé complètement. Et une sous-valorisation d'un des produits de l'élevage, quoi. Mmh.
Moi, je propose des formations justement où j'ai recensé un petit peu les laines. Je suis allée voir les éleveurs au moment de la tonte, j'ai récupéré des toisons. Et au départ, c'est beaucoup ce que j'ai entendu, mais ça vaut rien, ou la tonte, ça va à peine payer le tondeur, et puis ça va partir en Chine, et il n'y avait pas forcément... En fait, il y a un décret européen à l'heure actuelle qui dit que la laine est un déchet au même titre que les ongles et le placenta. Donc, à partir de là, c'est vraiment un constat grave de voir que cette matière qui est noble, qui est utilisable, elle est traitée comme un déchet. Et de plus en plus, dans les formations que je donne pour regarder à partir d'une toison, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette laine, il y a beaucoup d'éleveurs qui viennent avec leur propre laine et qui me disent, voilà, moi j'ai de la laine, j'aimerais bien pouvoir la travailler, mais je crois qu'elle vaut rien. Et en fait, on regarde ensemble qu'elle a forcément une utilisation, même si c'est faire de l'isolation avec, c'est déjà la valoriser.
Puis alors, pour finir sur l'atelier aussi... Justement, en lien avec les éleveurs, l'atelier a accompagné plusieurs groupes d'éleveurs dans une valorisation de leur laine. Alors, c'était soit à échelle individuelle, soit à l'échelle collective, donc notamment l'APAML, cette association des éleveurs des Alpes-Maritimes, voilà, qui sont engagés depuis quelques années dans un gros travail de valorisation de leur laine. Et donc là, voilà, l'atelier a été présent pour les aider à prendre contact avec... toute la filière de l'industrie textile en Italie, à suivre le processus, à savoir lire en fait leur laine aussi, en connaître les qualités, savoir appréhender un produit qui n'est jamais le même d'année en année. Voilà, il y a récemment, en plus on peut juste citer récemment un autre groupe qui s'est monté plutôt dans le quart sud-est à l'échelle de plusieurs départements et qui travaille la laine Mérinos.
Écoutez, Jean Damoiseau et Damoiselle, avant de se quitter, je vous poserai bien une question. Est-ce que, à votre avis, cette fête de la laine reflète un petit peu ce côté global, cohérent, éthique dont cette interview est pénétrée ? Est-ce qu'on le retrouve, ça, ces gens qui savent qu'ils font quelque chose de cohérent, qui a du sens et signifiant ? Est-ce que ça se voit dans cette fête de la laine ?
Je pense tout à fait, ouais. D'ailleurs, d'année en année, en fait, il y a une participation de plus en plus importante de producteurs et donc et qui est complètement approuvée par tous les artisans, métiers d'art, etc., qui sont super contents de voir que ça repart un petit peu, quoi. Donc, ouais, je pense que ça se sent tout à fait, quoi.
Très bien. Eh bien, sur ce, braves gens, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Une bonne fête de la laine. À bientôt, au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Okay, the bird.
L'interview du jour.